11 août 73, date de ma naissance. C'est par une chaude nuit d'été que je m'élance.
Répugnant république.
C'est beau comme des airs ou des lettres ont pu me donner des ailes. Des rêves d'azur à chaque fois que ma zone me désole. J'ai pris plaisir à saisir chaque césure de ces airs. Depuis mon désir d'asile désarme désormais César. Mon métier se résume à combler le vide, à parler aux inconnus quand la musique me guide.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio B dans cette émission spéciale en partenariat avec le théâtre de Bourg-en-Bresse.
Émission spéciale puisque nous sommes en direct et en public à la brasserie du théâtre. Vous pouvez donc nous rejoindre, vous arrêter à tout moment. Je suis bien accompagnée ce soir à mes côtés de fans de musique et de foot. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lien. Michel Salso, Vincent Rochelecca, bonsoir.
Bonsoir.
Et il se produira ce soir à 20h sur la scène du théâtre de Bourg-en-Bresse pour l'adaptation du texte d'Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Il est aussi rappeur dans le groupe La Canaille. Marc Namour, bonsoir.
Bonsoir.
Radio B. 90 FM.
Marc Namour, vous fourmillez de projets, de créations, de partenariats, de featuring. On dit de vous que vous êtes rappeur, chanteur, poète. Vous, vous vous définissez comment ?
Ben un peu tout ça, du coup, par la force des choses, quoi. Mais Césaire disait marmonneur de mots. Je trouve que marmonneur de mots, c'est pas mal.
Vous êtes né au Liban, puis votre famille a dû fuir la guerre et s'installer pas très loin d'ici, à Saint-Claude, dans le Jura. Ouais. Le début de tout, Michel ?
Oui, si on évoque Saint-Claude, ville qui vous est chère. Pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance, les miens et ceux de mon père, les souffles à cul, la piscine, le stade de rugby, la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, le grand pont sous lequel on passait pour relier le centre-ville, le gymnase et le concert de Louis Bertignac et les visiteurs, c'est en 87. Le chapeau de gendarme, non loin de là, hein, mais pas le quartier des Avignonnais où vous avez vécu. Comme toute ville ouvrière et industrielle, je pense à Oyonnax, il y avait deux quartiers, hein, celui des riches et puis celui des pauvres, celui des exploitants et celui des exploités. Quels souvenirs vous en gardez ?
De Saint-Claude, moi, je peux pas la résumer en une phrase. Saint-Claude, moi, c'est toute mon enfance, c'est mes premiers amours, c'est une colère qui gronde, c'est le quartier des Avignonnais qui m'a inspiré finalement ce que je suis. C'est une terre d'accueil puisque c'est là où on a déboulé avec toute la famille. C'est une ville ouvrière par excellence, ou je sais pas si on peut dire par excellence parce que c'est un peu bizarre de dire ce mot-là, mais ville ouvrière j'ai fait mes premiers petits boulots là-bas à partir de 16 ans et ma mère et ma sœur sont encore là-bas, donc du coup c'est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, même si quand j'y retourne j'ai un peu le cœur qui se serre parce que forcément il y a moins de boulot, c'est un peu une ville qui est comme toutes les villes ouvrières, malheureusement elles sont sous le coup de la délocalisation, sous le coup d'un chômage qui monte en flèche, une population qui s'en va, parce que forcément, moins de boulot. Mmh. Et donc, du coup, dans mon quartier, il y a des tours qui se murent, quoi. Donc là, quand je vois mon quartier, ça me fait un peu mal au cœur, forcément. Mmh. Donc, des souvenirs mitigés, voilà, entre joie et peine.
Et souffle à cul ?
Les souffles à cul. Les souffles à cul, pour moi, en vrai, c'est des souvenirs de cuite, hein, on va
dire. D'accord.
Et de brûler le roi.
On peut savoir ce que c'est parce que...
Les souffles à cul, c'est une fête sanclaudienne qui finit toujours par « on va brûler le roi ». Donc, dans la symbolique, j'aime bien. Et puis c'était une fête, on va dire populaire, quoi. Et tout le monde il y avait des filets de chars, et tout le monde est déguisé. Et c'est une occasion de faire la fête, quoi. En fait, on voit la ville, tous les bars, ont des terrasses, et c'est une belle teuf, quoi. En fait, on va dire une fête de ville, quoi.
Votre ville ouvrière, vous l'avez clamée à travers plusieurs titres et avec votre groupe La Canaille, et notamment L'Usine, un lieu que vous avez connu et qui vous a inspiré ce morceau.
Ouais.
Le bus vient de le déposer, il pointe et leur verra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le gueuse du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. On lève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, cavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatiguée mais contente, quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler. À emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Couper, séparer, jeter, c'est le lot des ouvriers qui travaillent dans les usines de matières plastiques. Un monde dont personne ne parle et dont la pénibilité n'a jamais été reconnue. L'usine qui a connu quelques années plus tard une suite, la Calmie. Un bel hommage aux personnes que vous représentez à travers vos textes.
Bah ouais.
Un petit extrait.
C'est... Ah, ouais, allez.
Ah bah oui, allez.
Allez.
Salut à toi, moi c'est Sofiane. J'ai 40 ans, je suis chariste. J'ai découvert ton son, l'usine, il n'y a pas longtemps. T'as résumé la vie de mon père dans ce titre en 5 minutes. Je te garantis que là où j'habite, y'a que des boîtes qui luttent. Pris dans les taux entre les religieux et les fachos, v'là le gâchis. Ma cité ouvrière prend des airs de cachot. Ouais, cette époque restera dans l'histoire un cas d'école, titré à la gloire de la bêtise et de ses années folles. Moi aussi, dès que je peux, je prends le stylo et je griffonne. Sans prétention, je pose des mots sur les mots qui me chiffonnent. Ça me fait du bien, j'écris ce que ne dit pas ma bouche. Je me demande dans quel état tu te mets, toi, quand t'accouches. C'est bien la première fois que je tape comme ça aux fenêtres. Est-ce que cette lettre t'atteindra? Qui sait, peut-être. Et puis je m'en fous, je n'attends pas de réponse. Je voulais juste dire respect pour ce que tu fais, ce que tes rimes dénoncent.
Le mot ouvrier est presque devenu un gros mot. Marc Namour, vous êtes l'un des derniers défenseurs de cette classe.
Ouais, je sais pas si je suis le dernier défenseur de cette classe. En tout cas, je suis un défenseur de ce monde-là. Mais pas par posture, en fait, parce que je suis vraiment issu de ce monde-là. Ma mère est encore à l'usine. Quand on est arrivé du Liban, on a tous bossé à l'usine. Toute ma famille était ouvrier. Voilà, c'est quelque chose qui est en moi, c'est dans mon ADN, quoi, en fait, finalement.
Vous avez créé, d'ailleurs, en tant qu'artiste associé, un spectacle Work in Progress autour du travail sur les scènes du Jura. Ouais. C'est quoi le propos de ce spectacle?
Eh ben, à l'heure d'une Macronie dont on n'en peut plus, là, en toute puissance, j'avais envie juste de rappeler que le travail... voilà, je voulais confronter, en fait, finalement, la voix du travailleur à celle du patron. Et donc, dans ce spectacle-là, on parle de rapport au travail, on parle de petites gens, mais pas que, justement, le monde ouvrier, mais les travailleurs au sens large du terme, quoi. Finalement, on parle de conditions de travail. Et je me suis concentré, finalement, sur tous les dénominateurs communs des travailleurs. Et voilà, ça parle de rapport à la hiérarchie, de coups de pression, du sentiment d'être inutile, de finalement la tâche est tellement découpée qu'elle te laisse, c'est vide de sens, tu comprends même plus ce que tu fais, la tête ne comprend plus les jambes. Enfin voilà, je me suis vraiment concentré sur tous les dénominateurs communs des travailleurs pour pas justement mettre l'accent juste sur une partie, tu vois, je voulais pas faire un spectacle que sur les ouvriers. Mais par exemple, je voulais que ce soit un enseignant, une infirmière, une caissière, quelqu'un qui travaille en service, tu vois, pour les télécommunications, puisse se retrouver aussi là-dedans. Et je voulais à chaque fois confronter finalement cette parole du patron où j'ai compilé finalement plein de discours de politiques, de grands patrons, qui sacralisent à chaque fois la valeur travail, comme si c'était quelque chose de vertueux par essence, quoi. Il faut redonner le goût du travail. Il faut vraiment éduquer les gens à se dire que le travail, c'est important. Le travail, on peut pas faire autrement. Même limite, on peut pas avoir d'identité sans le travail. Et c'est justement pour questionner tout ça que voilà, je la mets en exergue avec une parole de travailleur juste après, quoi.
Donc justement, vous êtes passé d'un travail manuel à un travail intellectuel, travail de l'artiste.
Ouais.
Comment on gère ça?
Je le gère par accident et je me surprends encore tous les matins d'avoir le luxe de vivre de ma passion, parce qu'à la base effectivement j'étais vraiment pas destiné à ça, et c'est grâce à une professeure de français qui à un moment donné m'a dit qu'il voyait bien que je faisais partie des gars agités et au fond de la classe, et qu'on avait gros sur la patate, et elle m'a dit finalement à un moment donné tes états d'âme là, pose-les sur papier, tu verras que ça allégera ton fardeau. Et je l'ai écouté, je l'ai fait une fois. Ça m'a fait du bien, et je l'ai fait deuxième fois, troisième fois, et puis là ça fait 20 ans que j'écris et que j'ai pas arrêté. Donc je dis souvent que je suis rentré dans le milieu artistique par accident, et un heureux accident. Mais parce qu'en fait, le pire, je reprends une phrase de Hamé, le pire est qu'on ait fini par le croire, qu'on est qu'une merde, quoi. Et Hamé de la rumeur. Et je trouve que c'est très très vrai. Et que moi j'ai manqué finalement, je pense que j'étais ultra sensible comme plein de gosses, comme la majorité des gosses, et personne n'est venu jamais nous dire qu'on était capable de... Nous, on se disait qu'il y avait juste les minima sociaux qui nous attendaient, les portes de l'usine qui s'ouvraient pour nous, et qu'on valait pas plus que ça. Et finalement, l'écriture, moi, je m'en suis servi comme levier d'émancipation. Et de me dire que je ne veux pas plus, mais en tout cas, je ne veux pas moins que les autres. Et ça, c'est déjà énorme de se le dire. Quand finalement, le monde te renvoie juste que, voilà, la petitesse de ta condition, quoi. Et grâce à la musique, à l'art en général, quoi, ben, j'y ai trouvé des armes pour m'élever plus haut que ce à quoi j'étais destiné, quoi.
Sur votre album là, de la Canaille 11-08-73, vous parlez de la République. Vous l'avez découverte assez tôt, finalement. On est loin de l'image que l'on peut en avoir à l'étranger. Cette République, Marc Namour, comment là, vous l'avez accueillie, comment vous êtes-elle accueillie? Comment vous êtes-elle intégrée?
Alors là, on y va. On lâche le dossier, on y va, quoi. Ouais. Bam. Ok. Ouais. Eh ben, en fait, là, tu fais référence à une chanson du quatrième album qui s'appelle effectivement République, où du coup, je fais, pour moi, finalement, c'est toute l'historique de moi, ma vision par rapport à la République française. Et effectivement, du coup, le premier couplet, c'est mon enfance. C'est quand je suis arrivé à la République, terre d'accueil, liberté, égalité, fraternité. Ce sont trois mots qui sont magnifiques. Et forcément, tu ne peux que cautionner. C'est-à-dire que tu dis, bah ouais, super, liberté, égalité, fraternité. Et j'avoue, j'en mets comme programme. Et après, du coup, le deuxième couplet, c'est mon adolescence, où d'un coup, je commence à questionner ça. Je commence à apprendre dans les livres d'histoire que, du coup, finalement, cette République qui paraît, qui a les mains si blanches, quand tu t'arrêtes à cette façade, eh ben, finalement, elle a perpétré des crimes assez odieux. Tu vois, tu penses à l'Algérie, tu penses à, enfin, voilà, plein de choses. Et puis après, c'est le troisième couplet, c'est mon regard d'adulte face à cette République, et où, du coup, finalement, les trois mots. Liberté, égalité, fraternité, je trouve que c'est une hypocrisie flagrante, puisque dans les faits, finalement, la République des puissants, c'est juste un outil de plus pour exploiter la masse laborieuse. Et sous couvert de liberté, égalité, fraternité, et ben, dans les faits, on en est loin, quoi.
Justement, en pleine période d'agitation sociale entre les gilets jaunes ou encore la défense du régime des retraites, la République, c'est aussi le gouvernement qui envoie la police faire ce que vous appelez le sale boulot.
Le sale boulot, ouais.
On écoute.
Un flic reste un fils de pauvre. T'as beau frotter, t'as l'odeur fauve. Tu t'exécutes dans un silence de glace. Mais où est passée ta conscience de classe? Ironie du sort grotesque. C'est tes bottes qui m'écrasent si je proteste. Ta matraque qui menace, qui moleste. À te voir la mélasse fasciste à de beaux restes. Garde chion attardé, serviteur pour notre table attablée. Bras armés se bagarre au nom d'une élite accablée. Où est la trace de ton humanité? Quand tu fonds dans la masse de ma rue agitée. Quand t'expulses, quand tu déloges. Et les ordres jamais t'y dérogent. Sale boulot. Sale boulot, sale boulot, sale, tu fais le sale boulot, sale boulot, sale boulot, sale boulot, sale, tu fais le sale boulot.
Alors les violences policières, ça existe depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant, selon vous, Marc Namour?
Bah parce qu'elles ont pris des proportions inouïes, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais de toute façon, je suis solidaire de tous les mouvements d'émancipation, et effectivement depuis un an là on est dans un beau mouvement qui dure et qui en a gros sur la patate et qui a été réprimé d'une façon sans précédent. Et moi qui suis dès que je peux parmi les manifestants, on s'en est pris plein la gueule et on continue de s'en prendre plein la gueule. Et c'est d'ailleurs hallucinant que ce soit permis d'utiliser des armes comme les LBD et tout ça. Et moi, je suis profondément choqué et je comprends pas en fait, parce que ça, le boulot, effectivement, forcément, on ne peut avoir que ce mot-là à la bouche quand on est en train de lutter pour ses droits, pour le droit de nos enfants, pour le droit de nos anciens, histoire de construire un monde meilleur avec des valeurs humanistes, et qu'on s'en prend plein la gueule du coup par des CRS qui font partie de la même classe que nous. J'ai envie de leur dire, mais les gars, mais...
Vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec un flic?
Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à... En manif, ça sert à rien, les mecs qui sont programmés
ouais,
pour taper.
En dehors d'une manif, peut-être?
Non, jamais, parce que dans mon entourage proche, j'ai pas de flic. Mais je suis pas en train de dire que tous les flics sont mauvais par essence, quoi, si tu veux. Je suis en train de dire que dans ce cas-là, là, tu fais le sale boulot, quoi. Vraiment. Et t'es aux ordres, finalement, de puissants qui même te manipulent, toi, pour que tu sois leur bras armé, quoi. Et donc, finalement, tu œuvres même contre ton propre intérêt. Et j'ai envie de leur faire comprendre, les gars, à un moment donné, mais ralliez-vous à notre cause, quoi. Ralliez-vous à notre cause, désobéissez. Parce qu'à un moment donné, frapper sur son boulanger, sur l'institutrice qui va éduquer tes gosses, sur le mec qui va nettoyer le métro dans lequel que tu utilises tous les jours, qu'est-ce qu'on en est où, là? Elle est où ta conscience politique? Et donc là, à un moment donné, effectivement, la lutte de classe se durcit de plus en plus. Et à un moment donné, il faut se positionner. Et du coup, tu fais un métier qui est voilà, à la frontière. Et franchement, dans ce cas-là, je ne comprends pas. C'est vraiment une interrogation. Je me dis, mais c'est complètement absurde, quoi.
Dans la musique aussi, vous avez choisi dès le début de ne pas faire partie des dominants et puis de garder votre indépendance à Limoges du bruit.
V'là la gueule de l'AFM et que mon poste est triste. C'est la même soupe insipide qui tourne en playlist. Les mêmes navets paradant tête au box-office. Et les victoires de la musique célèbrent la fête de la saucisse. Laisse-les faire leur cochonnerie phonographique. Ici l'équipe vient friser les ondes jusqu'à ce que la sono panique. Faire la nique à la culture de caniveau, à la variette avilissante. Je revendique le camp des radicaux. Et merde, j'en dis trop, je viens de plomber l'accueil. L'instru était bonne mais j'ai bouffé la feuille. Désolé les gars, c'était plus fort que moi. Encore un porte-voix qui a pas compris, qui dit n'importe quoi. Jette leur monde au fond de la cuvette et tire la chasse. On reconstruit dans les débris afin d'élever la masse. Une dédicace aux artisans de la culture. Je viens crier tout mon respect aux ouvriers de la rupture. Du bruit, parce que c'est tout ce qui reste. Parce que leur langue comme leur chant est indigeste. Si c'est la seule façon de montrer qu'on existe, on fait du bruit. Du bruit pour les cerveaux qui résistent. Ouais, du bruit. Et c'est comme ça que la réplique s'élabore, à péter les tympans de la pire des majors.
Marc Namour, la liberté a un prix. Un prix pour l'interrogation ? Non, la fin, c'est pas une question.
Alors vous avez 3 heures, la liberté a un prix. Je ramasse les copies dans 3 heures.
A-t-elle encore un prix ?
Non, mais ouais, bah en tout cas, c'est, effectivement, moi, pour moi, ça n'a pas de sens si finalement j'ai pas ma liberté de ton, ma liberté d'arrangement, ma façon d'aborder la musique, ma façon d'aborder les concerts. Je trouve que effectivement chaque concert, comme je dis dans la chanson, c'est une célébration. Une célébration justement de faire la musique avec qui et devant qui on a envie de le faire, quoi, tu vois. Et c'était comme tu disais, nous on a choisi d'être un groupe indépendant depuis le départ, donc on vient du do it yourself et on trouve, parce qu'on trouve qu'on est les meilleurs défendants, voilà, défenseurs de soi-même, quoi. On n'a pas besoin de se faire représenter. Et là aujourd'hui, voilà, on a monté notre label et on produit tous les disques avec ce label. Et c'est une façon de résister justement à ce rouleau compresseur de la musique de supermarché, parce que la culture finalement c'est le seul rempart à la dérive, quoi. Et avec cette espèce de... Moi, la musique, c'est pas de la musique au maître, quoi. Et on y met notre trip, on y met nos sueurs, on y met notre âme. Et c'est une façon de militer aussi, tu vois. Et pour ça, je trouve que, voilà, on a besoin d'indépendance. Et sans cette indépendance-là, pour moi, ça n'a plus de sens, quoi. J'ai pas envie, moi, qu'un DA de quelconque major vienne mettre le nez dans ma direction artistique. Ça n'a pas lieu d'être.
Nous non plus.
C'est là que j'arrive sur la deuxième partie de l'émission où on va parler un petit peu d'art et de culture, ces choses superficielles que vous venez de décrire. Du coup, on va vous interroger sur différents éléments liés à la musique ou au croisement de vos projets. Juste si on en reste plutôt en parlant de hip-hop, je sais qu'il faut toujours faire très attention à ne pas mettre les choses dans des cases et que c'est un piège. Mais quand même, est-ce qu'il y a des nominations qui vous parlent plus, si on parle de, je ne sais pas, de hip-hop conscient, de rap à texte, de poésie urbaine, il y a un air de jeu dans lequel vous vous sentez mieux par rapport à tout ça ?
Ouais, poésie urbaine, c'est le terme qui me correspond le plus, parce que finalement, engagé ou conscient, c'est deux termes pour moi qui sont creux, parce que conscient, ça veut dire que, a fortiori, les autres sont inconscients, et engagé, finalement, pour moi, c'est pas assez précis, parce que Marine Le Pen est engagée. Le tout est savoir vers où tu t'engages, quoi. Donc du coup, poésie urbaine, moi je suis attaché au mot poésie. D'ailleurs, le rap a ça dans son ADN, hein, c'est, le rap ça veut dire rhythm and poetry. Donc depuis le départ, ça défend une poésie en rythme. Et moi, c'est mon entrée dans la littérature, le rap. Et donc je revendique vraiment Mordicus que c'est une expression poétique contemporaine.
Votre réponse me va bien, parce qu'en plus, vous ramenez là tous les cousins du slam et qui n'ont pas toujours un flow... À la mitraillette, mais qui ont aussi peut-être
des choses à dire.
Ouais, cette casquette de poète, de poète urbain. Si je sors du registre de la musique, Elodie l'a évoqué tout à l'heure, notamment avec les scènes du Jura. Vous avez frotté avec d'autres disciplines. On vous a vu aussi ici l'été dernier avec Loïc Lantoine, plutôt vers la chanson. L'apport de Serge sur le rock ou la poésie avec Césaire. Donc il y a beaucoup de c'est assez foisonnant tout ce que vous tentez, vous dites. Il y a des disciplines avec lesquelles vous n'avez pas encore frotté qui vous qui vous tentent ou voire même des aventures qui sont en cours à nous révéler.
Bah ouais, ça va être la prochaine aventure. En tout cas pour moi, ça va être une grande nouveauté, c'est le théâtre. Moi, je suis un amoureux des mots. Hein. Donc du coup, moi, tant qu'il y a des mots, j'y vais quoi. Et le théâtre, là, j'ai une belle opportunité. Ça va s'appeler La Comparution. C'est une pièce de Guillaume Caillet qui va jouer justement sur les le thème, c'est les violences policières. Et je vais être comédien et rappeur dedans. Donc du coup, ça va être une nouvelle aventure pour moi.
Dans le titre La Reine, vous donnez la plus belle définition de votre art. Moi, je trouve la poésie est un sport de combat.
Bah ouais.
Et nous voilà dans l'impasse. Cette page blanche chez moi, mais qui de nous perdra la face? Regard électrique, le stylo dans la main, les nerfs à fleur de peau. Assis dans mon coin, j'attends le gong pour donner l'assaut. La bataille sera rude, elle sera sans pitié. Un combat contre moi-même où la parole est sanctifiée. Ici l'ennemi est intérieur, je le travaille au corps. Décidé à déchirer sa nuit de mon aurore. Cogne avec panache, avec un plomb, avec du cran, avec du temps, avec le ton, les tripes et les couleurs du clan. Cogne avec le swing et tout le spleen de mon artiste. À 10 000 lieues du cliché de la vie d'artiste. Cogne, envoie la phrase résonner aux 4 points cardinaux. Envoie le poids du lever à la tombée de rideau. Une fois debout dans les cordages, mes mots n'ont pas de rivaux. Comme dit Néo, l'orgueil c'est la cravate des marginaux. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme. La poésie est un sport de combat. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans le dôme.
Marc Namour, la poésie est à l'honneur ce soir à 20h pour le spectacle Debout dans les cordages sur la scène du théâtre de Bourg, une adaptation de Caillet d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Mmh.
Comme Aimé Césaire, vous êtes un amoureux des mots. J'imagine que pour ce spectacle, évidemment, mais plus largement, c'est une œuvre qui vous touche, un artiste qui vous touche. Qu'est-ce qui vous relie avec ce grand poète ?
Qui me touche, c'est même le mot est faible, en fait, qui me bouleverse. Mais parce que le cahier d'Arthur au Pinatal, c'est mon poème de chevet. Et j'ai la chance de le défendre depuis 5-6 ans. Et dans ce texte, finalement, pour moi, il y a tout. C'est un cri d'émancipation par excellence. Et moi, issu des classes populaires, on a besoin de ce genre de nourriture pour s'élever, justement. Je disais ça en début d'émission. Et moi, là-dedans, le cahier d'Arthur au Pinatal, la grande classe absolue d'Aimé Césaire, c'est justement de dépasser uniquement la couleur de peau et de s'adresser à tous les opprimés, à tous les oppressés. Et ça, c'est et son message là-dedans, c'est juste de dire debout, debout. C'est le premier qui veut nous réduire va se prendre des coups de chaussures parce que ça suffit, assez de ce scandale. Et ça, il se bat pour la faim universelle et pour la soif universelle, comme il le dit dans le texte à un moment donné. Et ça, je trouve que vraiment c'est fort parce qu'il avait une culture prolétaire forte, Aimé Césaire, et on le sent dans ce texte-là. Et moi, je trouve que si je dois revendiquer une seule identité, c'est mon identité sociale. C'est pas une identité géographique, c'est pas une couleur de peau. C'est de dire que j'ai beaucoup plus de points communs avec un prolo du Guatemala, par exemple, qu'un bourgeois du 16e arrondissement de Paris, quoi, tu vois. Il a beau être français, ça va pas constituer finalement un terreau commun. Ce qui va constituer vraiment un langage commun et une façon de communiquer qui nous est propre, c'est le fait qu'on subit tous les mêmes coups de pression et qu'on est tous en quête d'émancipation et qu'on va se retrouver sur les luttes. Et je trouve que le cahier d'Arthur au Pinatal, c'est vraiment une expression poétique magistrale qui décrit cette quête d'émancipation.
Vous parlez de coups de pression, on peut parler aussi d'oppression. C'est vrai que dans le cahier de Césaire, il y a aussi le colonialisme français. Il y a un duo amoureux qui est aussi complexe entre la France et le Liban. Je ne sais pas si c'est un peu tiré par les cheveux, mais tout comme entre les Antilles et la France, entre la France et le Liban, vous y voyez des choses qui peuvent se rejoindre dans ces jeux de « Je t'aime, moi non plus ».
C'est encore la preuve que finalement cette France, quand on parlait au début, la liberté, égalité, fraternité, elle a du sang sur les mains. Cet anticolonialisme, en tout cas intrinsèque que j'ai chez moi et qui est propre aussi au poète de la négritude comme Césaire, c'est juste à un moment donné le droit de de s'organiser et de prendre en main notre destin sans que personne nous dise comment il faut faire, quoi, en fait, finalement. Et la France, du coup, effectivement, le Liban était un ancien protectorat français. Quand elle est partie, le Liban est rentré en guerre parce que, soi-disant, elle disait, ouais, bah, du coup, c'est nous qui allons faire la constitution de ce pays et on va instaurer, à chaque poste, une obédience religieuse. Et finalement, c'était la porte d'entrée à 40 ans de guerre de religion, quoi. Et c'est ce qui a fait aussi que je me retrouve ici, parce que sinon, ça se trouve, je serais jamais parti du Liban. Donc ouais, sur cette France coloniale, on en a gros sur la patate, quoi, et ça suffit, quoi. Mais elle est sournoise, elle est vicieuse, elle continue encore, tu vois. On le voit à la France-Afrique, c'est quelque chose qui se perpétue encore et toujours, quoi. Et ça suffit, on en a marre.
Marc Nagmour, est-ce que vous pensez qu'il y aura des moments où vous serez en paix, apaisé?
Mais en fait, moi, je suis en paix, hein. Vraiment. Hein. Ouais. C'est que la guerre, finalement, c'est eux qui la veulent. Hein. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très cool. Hein. Tu me vois à l'apéro, je suis vraiment un bon vivant. Hein. Mais c'est juste que le monde, si tu veux, comment la direction qu'il prend, si tu veux, je trouve ça affolant. Hier encore, je lisais que maintenant, on va avoir des nano-satellites dans le ciel et que Pepsi avait signé le premier contrat, quoi. Tu dis, mais putain, mais les gars, vous êtes teubés ou quoi? C'est quoi la bêtise de l'homme, quoi? Comment tu peux autoriser ce genre de truc, quoi? Tu vois, c'est parce que du coup, on en parlait dans le train en venant ici. Mais la bêtise du monde, si tu veux, moi, elle me rend folle, quoi, en fait. Et je suis un profond humaniste. Et je suis quelqu'un de très, très positif. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai plus envie de me laisser faire, j'ai plus envie de raser les murs, j'ai plus envie de ce complexe d'infériorité, j'ai plus envie de ce processus de réduction. Et donc, quiconque veut essayer de me réduire va se manger une rafale dans la tête, quoi.
Marc Nagmour, merci à vous. On va passer à l'apéro. Je rappelle que vous serez sur la scène du théâtre de Bourg-en-Bresse à 20h ce soir pour le spectacle Debout dans les cordages. Merci à la Brasserie du Théâtre pour son accueil. Michel Celso, Vincent Rochelecca, merci à vous. Et merci à l'équipe du théâtre de Bourg, à la technique Thomas Couty et Thierry Barbier. Merci à tout le monde pour son écoute et restez branchés sur Radio B. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Salut.
11 août 73, date de ma naissance. C'est par une chaude nuit d'été que je m'élance.
Répu, répugnant république.
C'est beau comme des airs ou des lettres ont pu me donner des ailes. Des rêves d'azur à chaque fois que ma zone me désole. J'ai pris plaisir à saisir chaque césure de ces airs. Depuis mon désir d'asile désarme désormais César. Mon métier se résume à combler le vide, à parler aux inconnus quand la musique me guide. Ça suffit pour se prêter main forte. Un mélange d'intime et d'universel entre nous. On sait qu'au fond la frontière est infime. On se ressemble car on partage la même réalité. Tous dans le même bateau.